dans ta sensibilité cinématographique, on a vu qu'il y avait quand même une place importante au cinéma américain. On retrouve aussi cette sensibilité dans tes références littéraires. Et donc, l'Amérique est citée aussi donc, dans ton inventaire. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te touche dans ce pays, dans sa culture?
Il y a un côté attrait et répulsion avec l'Amérique, parce que j'ai énormément de mal avec toute une partie de leur politique, avec Trump, avec tout ça. Je me souviens d'une dame qui, aux États-Unis, que j'avais croisée dans un ascenseur et qui m'entend parler français, qui me dit en anglais, oh là là, vous devez nous détester. Et je dis non, je déteste votre président, c'était Bush à l'époque, mais pas vous. C'est vrai que l'Amérique, déjà c'est un pays, alors j'ai eu la chance de le découvrir à l'âge de 12 ans, avec mes parents, de faire un grand voyage là-bas, et c'est une immensité, quoi. C'est quelque chose de gigantesque. Il y a énormément de choses là-bas à voir, mais c'est plaine, c'est désert, où il n'y a personne, mais à perte de vue. On est en haut d'une colline, d'une montagne, quoi, et on ne voit personne à l'horizon. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. En France, il y a toujours une petite cabane, il y a toujours une voiture au loin, un agriculteur ou quoi dans la campagne. Mais c'est pas le cas là-bas. Donc déjà, ça m'impressionne beaucoup. Il y a une histoire. Alors encore une fois, j'ai vraiment grandi. C'est quelque chose que j'assume pleinement. Moi, j'ai grandi avec les cow-boys, les Indiens, les Stallone, les machins comme ça. Hein. J'ai vraiment grandi avec tout ça. Je me suis construit avec tout ça. Même, je pense que le fait d'avoir grandi dans une banlieue, je veux dire, ça allait pour moi, mais j'ai grandi à Sarcelles, c'est une banlieue où, faut se défendre au niveau du sport, faut être fort, faut être musclé, tout ça, et on se construit par rapport à tout ça. Donc voilà, j'ai vu tout ça, et c'est vrai que l'Amérique, c'est quelque chose que j'adore. Je vais détester politique, interventionnisme un peu partout, ou alors je vais détester leurs films de super-héros, tout ça. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui me fascine. Mais à la rigueur, même ce que je n'aime pas chez eux me fascine. J'ai vu chez eux, devant des magasins, il y a des bols avec des croquettes et des bols avec de l'eau pour attirer les animaux, les chiens qui sont tenus en laisse, et pour que le badaud se tienne devant la vitrine et regarde ce qu'il y a à vendre. Ça, on fait ça en France, on se fait allumer. Mais je trouve ça extraordinaire que ça puisse exister là-bas, qu'il y en ait qui ait pensé à ça et qui ose le faire, quoi. On aime ou pas, on trouve ça bien ou pas, mais c'est fascinant à voir. Là-bas, ils sont capables de vous faire une pub Coca-Cola qui désigne Pepsi-Cola et inversement. On peut avoir Pepsi qui répond même à Coca-Cola. On peut avoir devant votre salon de coiffure ou votre agence immobilière un panneau, on arrive un matin, on a un panneau de pub pour le concurrent qui a mis ça là exprès. Il y a de quoi être horrifié par ça. Mais je trouve ça incroyable et fascinant, drôle de l'extérieur parce que je le vis pas. Je préfère largement vivre en France. Mais
oui, ça t'a jamais tenté d'aller vivre aux États-Unis?
Un petit peu. Alors, ça m'a tenté un moment parce que j'adore, il y a une ville qui s'appelle San Diego et que je trouve magnifique. Mais San Diego, j'y suis allé et j'ai vécu un petit tremblement de terre là-bas. Alors, c'était du 5.8, je crois, sur l'échelle de Richter. C'est très impressionnant quand même. Il y a des panneaux au bord des routes d'indication quelle route suivre en cas de tsunami. Il y a le fameux Big One qu'on attend en Californie, qui devrait séparer la Californie du reste de continent, apparemment. Autant dire que j'ai plus trop envie de vivre là-bas. Mais c'est vrai que c'est un pays que je trouve beau, quoi.
Une sorte de démesure, autant dans les paysages que...
Bon, New York, voilà. Alors j'ai prévu d'aller prochainement à Philadelphie monter les marches de Rocky, mais on y revient. Mais voilà, je trouve ça très impressionnant comme pays. Il y a une odeur même dans les magasins, la clim peut-être là-bas, mais il y a un parfum d'Amérique.
J'ai repéré une troisième passion, en fait. Ne rien faire, sur laquelle tu insistes quand même, dans ton inventaire. Que fais-tu quand tu ne fais rien? Il y a différentes manières de ne rien faire.
Justement, ce que j'aime et ce que j'ai mis longtemps à comprendre, on m'a souvent dit, alors là, je crois que c'est très français, justement, attention, ne fais rien, procrastine, etc. On me l'a dit à l'école, on me me l'a dit dans mon travail, dans les différents postes que j'ai occupés, on me l'a dit dans la vie de tous les jours, et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, premièrement, on n'est pas obligé toujours de faire quelque chose, toujours d'avoir une ambition démesurée, de toujours être occupé, enfin c'est une maladie actuelle quoi, de toujours faire quelque chose, de faire des choses à ses gosses.
C'était un peu ma question aussi, c'est un peu comme un éloge de la paresse, une espèce de petite révolte par rapport à cette société marquée par une injonction à la performance, à la productivité.
Voilà.
Il y a de ça quand même.
Et le truc que j'ai découvert qui m'a plu justement, c'est qu'au final, je ne fais rien, mais on fait toujours quelque chose. Mmh. C'est-à-dire que si je dors, je ne fais pas rien, je me repose. Si je suis allongé sur mon canapé, alors qui est ma place favorite, eh ben je repose mon cerveau, ou alors, au contraire, mon cerveau va mouliner pour trouver des dialogues ou réfléchir à mon boulot ou à ce que je dois acheter comme course, etc. Et ça me fait du bien, ça fait du bien à mon cerveau, et je ne fais pas rien. Et ce qui est important, enfin là où vraiment j'ai découvert ça, c'est que on me disait beaucoup, j'ai beaucoup entendu ça, que je n'avais rien fait à l'école, notamment après le bac, j'avais rien foutu. Et j'ai vu un jour un psy à qui j'ai dit ça, et il m'a dit « Mais attends, quand tu foutais rien, on se tutoyait avec ce psy, et quand tu foutais rien, qu'est-ce que tu faisais ? Soit j'allais au cinéma, soit j'étais assis sur un banc, je lisais un bouquin. » Il me dit « Donc tu ne foutais pas rien. Tu faisais peut-être pas tes devoirs, ou t'allais peut-être pas écouter le prof, mais tu faisais quelque chose qui était utile pour toi, à ce moment-là, pour ton cerveau. Donc tu ne faisais pas rien. C'est pas possible de rien faire. »
En tout cas, faisais pas forcément ce qu'on attendait de toi à ce moment-là.
Voilà. Mais je faisais ce qui était bon pour moi à ce moment-là. Et finalement, comprendre ça m'a aidé, justement, tu parlais de cette productivité permanente. Je me suis dit, mais finalement, moi je suis très bien. Par exemple, à rentrer chez moi à 18-19 heures après le boulot, aller au cinéma et tout, là où d'autres ramènent l'ordinateur et tapent au clavier pour s'avancer pour le lendemain, quoi. Ne rien faire ou ne pas faire ce que la société voudrait, ou profiter, y compris me reposer, ça me convient très bien.
Est-ce que tu adaptes des siestes ?
Énormément, énormément. J'en fais pas assez,
ouais.
Mais je suis capable de rentrer chez moi, de faire une sieste à 18 heures, de me réveiller, de manger, d'aller faire une course, de regarder un film et de me rendormir à 22 heures. Voilà. J'ai toujours dit, petit, je m'endormais très très tard. C'est-à-dire, j'ai été claqué à l'école, mais de façon permanente. J'aurais pu m'endormir en cours. Je m'endormais, mais à 7-8 ans, à plus de minuit tous les soirs. Pas moyen de dormir. Et j'ai toujours dit que j'ai des années de sommeil en retard. Et aujourd'hui, il m'arrive de les rattraper, me faire des siestes. À 11h du matin le samedi, je peux faire 2 heures de sieste. Hein. Et ça fait un bien fou.
Je sais, je confirme.
Oui, c'est dur de se réveiller après. Hein. C'est dur de parfois il y a une demi-heure de plus.
Tout à fait, oui, c'est ça. Il y a une espèce de. Un sas.
Ouais, ouais. Pas toujours facile, mais ouais, j'adore.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs références, il y a des petites références dans ton inventaire, je sais pas, qui m'ont questionné sur peut-être un trait de ta personnalité. Donc, tu aimes faire des listes, tu aimes barrer, cocher, tu aimes conserver, collectionner des choses, tu aimes que tes pieds soient parallèles aux lignes des trottoirs. Est-ce que ça traduirait pas, je sais pas, quelque chose par rapport à ton rapport au monde matériel ? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime l'ordre, qui a besoin de perspectives claires ?
Alors, on va dire que j'aime l'ordre sans forcément que mon appartement soit très ordonné, mais ce qui se passe, alors, j'ai remarqué que depuis que j'ai un petit garçon de 6 ans et demi, et depuis que j'ai cet enfant, je suis moins maniaque sur l'ordre. Par exemple, j'avais des collections de magazines de cinéma auxquels il ne fallait surtout pas toucher, et il lui est arrivé d'en toucher un parce qu'il y avait Superman en couverture ou je sais pas quoi, de m'arracher la couverture, et si c'est pas grave, vas-y, si tu veux la couverture, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a eu un long moment où j'ai besoin de dans mon esprit, que ce soit bien ordonné, faire ces listes. Alors il y a l'aspect collection, avec le prix du mètre carré à Paris. J'essaye de me défaire un peu de mes magazines, de mes livres, et tout ça.
Quand tu parles de tes collections, c'est livres, magazines, ouais,
DVD, des collections de vaisselle banania.
D'accord.
Voilà. Des cartes postales de cinéma. Alors j'en ai un paquet de cartes postales, des tickets de cinéma. L'autre fois, je les ai sortis il y a une semaine pour que mon fils les voie, qui s'est mis à collectionner les siens, lui aussi. Alors il en a 3 ou 4 pour l'instant, mais je lui ai montré ça. Pareil, je lui ai dit, vas-y, joue avec si tu veux, c'est pas grave si tu les déranges. Ça m'impacte moins quand on dérange maintenant toutes mes affaires. Mais longtemps...
Tu pouvais être tendu.
Sur cette question. Tendu.
Par exemple, comment classes-tu tes livres? Parce que ça, c'est toujours une bonne question. Classement de vie en tête, il y a ceux qui ne classent pas. Moi, je ne classe pas du tout. Et puis, il y a ceux qui...
Alors, depuis que j'ai emménagé il y a 3 ans dans mon nouvel appartement, ils ne sont plus classés. Parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais... je me souviens de quelqu'un, j'avais peut-être 25 ans, qui avait dit à des amis, c'est un grand malade, il est classé par analogie. Et c'est vrai qu'ils étaient classés, alors il y avait plusieurs entrées, il y avait la collection. Alors je suis très fan de poches, j'adore ce format-là, donc c'est des centaines de poches, donc il y avait la collection, il y avait l'auteur, mais il y avait aussi à l'intérieur de la collection l'analogie. Donc par exemple... il pouvait y avoir un livre de science-fiction, à côté de ça, on enchaînait avec un autre livre de science-fiction, et puis les livres de ce même auteur. Alors c'était très dur à classer. Donc, parce qu'à l'intérieur de ces classements, les livres d'un même auteur, il fallait par exemple les mettre par ordre chronologique. Sauf que si c'est par ordre chronologique, il n'y a plus la collection.
Forcément.
Il n'y a plus la... Voilà. Alors c'était...
c'est un vrai casse-tête.
C'était infernal.
De quoi t'occuper de longues journées?
Ah oui. C'était très long, et il pouvait y avoir des moments où je regardais comme ça mes livres, et il y en a deux, là, faut les inverser, enfin, voilà, combien de fois j'ai sorti tous les livres de la bibliothèque pour les réordonner, j'aime pas dire que j'ai perdu mon temps à faire ça, mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus.
Est-ce que tu as des projets d'écriture?
Il y avait un livre que j'ai commencé, un roman, que j'ai commencé en 2016. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai commencé après avoir vu le film Elle, avec Isabelle Huppert et de Paul Verhoeven, qui est tiré de Philippe Djian. Pendant le film, à un moment, pourtant j'avais lu le livre, mais je m'en souviens plus, il y a un moment, je me dis, je suis sûr que tel personnage est mort. Oh, j'ai trouvé la fin, quoi. J'étais loin du compte, c'était pas le cas du tout, mais ça a servi de base à un roman. Ce roman, j'en ai écrit, je dirais, une centaine de pages. Et puis j'ai eu la problématique de la page blanche, comme on dit, j'ai eu du mal à continuer, et je me suis lancé dans cette deuxième version de La vie brève de Yann Palach. On est au milieu de l'année 2017. Et du coup, Yann Palach a été publié, il y a eu cette promo, cette énorme parenthèse, pendant laquelle j'ai eu énormément de mal à penser à autre chose. Que Palach, ça a été Palach, Prague, voilà, ça a été vraiment, c'était très dur. Et toute proportion gardée, j'avais lu une interview d'Emmanuel Carrère qui disait qu'après avoir écrit L'Adversaire, qui est un livre sur ce docteur Jean-Claude Roman qui a tué sa femme et ses enfants et ses beaux-parents, il me semble, après avoir écrit ce livre dessus, il ne pouvait plus revenir à la fiction, c'était trop dur. Et effectivement, depuis, il n'a pas fait de fiction. Et moi, après Palach, je me disais, mais comment revenir à la fiction? Parce que il ne s'agit pas de dire que j'ai écrit un chef-d'œuvre ou quoi, mais j'ai écrit sur un personnage qui est extraordinaire. Donc, faire de la fiction après ça, ça va être très difficile. Le fait de revenir de Prague m'a permis... Prague a été une expérience magnifique, mais très fatigante. Pas beaucoup dormi. Il y a eu un petit coup de déprime, parce qu'on se dit... j'ai été porté par Palach pendant des mois, voire des années, et puis ça s'arrête.
On tournait la page, ou aller.
Voilà, c'est un petit peu comme... comme un étudiant qui fait une thèse, qui prépare une thèse pendant des années, puis qui fait une dépression après avoir eu une mention très bien.
Oui.
Finalement, j'ai relu ce que j'avais écrit, je me suis dit, il y a des choses, il y a des trucs à faire. Donc j'ai repris l'écriture il y a un mois. Ça a fait un mois hier. Je me dis, voilà, on va voir. C'est à la fois tout ce que j'aime, parce qu'il y a la recherche du bon mot, de la bonne phrase et tout, et moi j'adore ça. La recherche, alors il s'agit de trouver après, ça c'est la question, c'est de savoir, ça sera pas à moi de le dire. Mais moi j'aime bien tourner la phrase en tous les sens jusqu'à ce qu'on puisse passer à la suivante. Et la fiction me le permet, beaucoup plus que le récit. Donc voilà, j'écris ça, c'est très reposant en termes d'histoire parce que, alors là je fais ce que je veux, on est dans la fiction pure. Après, ce qui est assez drôle, c'est qu'on m'a demandé... Je donne pas trop d'éléments dessus, parce que ça sera peut-être jamais publié, ni même jamais terminé, mais plusieurs fois on m'a demandé quel genre c'était, et j'étais absolument incapable de répondre. C'est de la fiction, c'est du roman, mais il y a un meurtre, mais il n'y a pas d'enquête. Donc on n'est pas dans du polar, on n'est pas dans de l'horreur, on n'est pas dans tout ça. Voilà, par contre, on va dire que je rends hommage à ces auteurs que l'on citait dans l'inventaire. Ce n'est pas cette fois Carrère ou Vuillard, c'est plutôt l'autre pan, Jean évidemment, mais Brautigan, Fante, etc. C'est-à-dire des auteurs qui racontent une tranche de vie, sans se définir dans un genre particulier, quoi. Brautigan, même ses polars sont pas très polars, quoi. Et donc, voilà, Bukowski, par exemple. Mmh. Bukowski, c'est quoi son genre? Voilà, c'est difficile à... Donc voilà, après, la seule difficulté, la seule truc dommage, c'est que j'arrive même pas à leur cheville. Mais bon, j'écris mon livre, je rêve un peu, et puis j'avance.
Diriger mes projets personnels sans être dépendant des autres. C'est par cette phrase que tu clôt ton inventaire, et donc on était dans l'évocation de tes projets d'écriture. Est-ce que c'est facile de diriger ces projets sans dépendre des autres? Est-ce que c'est même possible?
C'est en fait avec ce deuxième livre sur Palak que je me suis rendu compte de ça. J'aimerais, alors je sais qu'il y a l'auto-édition qui existe, mais c'est vrai que contrôler de A à Z son projet, et voire même toutes les étapes, je trouve ça extraordinaire. Ça a été très dur pour moi de faire confiance à l'éditeur. Alors je parle pas de faire confiance dans leurs compétences, ça j'avais aucun souci là-dessus, mais de relâcher un peu, de me dire mon boulot est fait, c'est eux les pros de l'édition, de la publication, de la pub, de la presse, etc. Mmh. C'est à eux de faire. Et c'est pas évident pour moi, d'autant que mon métier, dans le civil, j'aime bien dire, dans le civil, je suis chef de projet dans un groupe aéronautique, et chef de projet, ma chef me le disait la semaine dernière, c'est être chef d'orchestre. Donc j'aime beaucoup cette comparaison, et j'aime beaucoup l'idée d'être un chef d'orchestre dans mes projets. Au boulot, j'aime faire mon cadrage, c'est-à-dire tout définir, le budget, la durée, qui va faire quoi, etc. J'aime ensuite lancer le projet, etc. Et il y a des moments où la réalisation est chez quelqu'un. Et c'est pas mon boulot de réaliser, moi je fais pas du code informatique, mais n'empêche que je suis dépendant de cette personne et c'est pas facile pour moi. C'est quelque chose que j'aime, c'est tout maîtriser de bout en bout, de A à Z. Est-ce que c'est faisable? Il y a un chanteur que je suis pas fan de, enfin j'aime bien ses chansons sans plus, mais Stromae, qui paraît-il maîtrise tout de A à Z, mais jusqu'au moindre costume, le moindre maquillage, tout, toute son image, tout son mixage, ses chansons, ses paroles, tout est maîtrisé par lui de A à Z. J'ai entendu dire que là il va très mal, qu'il n'est pas très en forme.
Est-ce que c'est finalement souhaitable?
Voilà, mais c'est pas évident de faire confiance.
Oui, de faire des compromis par rapport à la vision que l'on a de
une
production, d'une création.
Et je sais que c'était ce fameux psy, pareil, qui m'avait dit un jour, tu sais, peut-être que t'écris bien. J'avais rien écrit à l'époque, mais j'en rêvais. Peut-être que t'écris bien, mais t'es peut-être aussi très mauvais critique sur tes œuvres à toi comme sur ceux des autres. Tu me dis que tu comprends pas pourquoi tel livre est publié alors que c'est nul. T'as peut-être rien compris au livre, quoi. Donc il y a un moment où, effectivement, faut peut-être faire confiance aux autres. Et moi, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que si je pouvais être écrivain, correcteur, imprimeur, éditeur...
Maquettiste,
journaliste, après, pour faire mes propres critiques.
Pour t'interviewer toi-même aussi.
Ouais.
Ça peut être pratique.
Oui. Ce serait génial, mais bon.
Puis comme tu es très bavard, serait parfait.
Ça, hein, parce que je l'ai dit dans mon inventaire.
Oui, mais je confirme, parce que nous en sommes à 1h15 de conversation.
Je suis désolée.
J'avais prévu un format d'une trentaine de minutes. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir.
Oui, faut couper. Hein. Faut me faire le signe du ciseau là quand je parle trop. Quoi. Faut me le dire.
Bon, en tout cas, ça a été un moment très agréable, cette conversation.
Merci. Pour moi aussi.
Je te remercie, ainsi que ton éditeur, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te souhaite de beaux projets maîtrisés.
Merci
pour la suite de ton travail d'écrivain.
Ben, merci à toi. Merci beaucoup.
Merci, Anthony.